Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous qui accueillera ce dimanche deux invités dans un paysage politique toujours en pleine recomposition ou décomposition. À partir de 10h30, c'est Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, qui nous rejoindra alors que la semaine a été mouvementée pour l'Union des Gauches ou la NUP, comme on l'appelle désormais. Mais d'abord, notre premier invité dénonce justement cette gauche qu'elle qualifie de radicale, y voyant une escroquerie politique. C'est l'ancienne ministre et eurodéputée Nadine Morano. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous accompagner. On va évoquer évidemment de nombreux sujets. Pour vous interroger, mes camarades, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mathieu. À la une du journal du dimanche, Nadine Morano, ce titre « Pourquoi Emmanuel Macron veut une femme ?» À Matignon, 74% des Français y sont favorables. Est-ce que selon vous, ce serait un signe, un symbole, alors que dans ce même journal aujourd'hui, Edith Cresson, seule femme à avoir été Premier ministre, dénonce une classe politique machiste.
Oui, c'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Avoir une femme à Matignon, pourquoi pas ? Mais c'est surtout pourquoi faire ? Quelle sera sa feuille de route ? Quelles seront ses actions ? Quelle sera la politique à mener ? En fait, ce qu'attendent les Français, c'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme, c'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Et je constate une chose, en matière de sécurité aussi, les Français attendent beaucoup. Mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, tout est à l'arrêt au niveau gouvernemental.
C'est-à-dire ?
Bah, vous savez très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a eu la période de campagne électorale où on arrive en fin de quinquennat. Vous avez les périodes où les ministres se demandent s'ils vont rester ou s'ils vont partir. Les cartons sont faits.
Vous avez connu ça ?
J'ai connu ça.
Bon. Ça arrive, c'est
ça
presque...
Arrive
oui, non, mais j'ai connu ça quand vous devez faire un remaniement. Mais attendre pratiquement un mois pour avoir le nom d'un Premier ministre et se mettre au travail... J'ai jamais vu. C'est une première. Donc là, pour l'instant, tous les ministres attendent, ne
mais
font quasi rien.
De quoi ce signe ? Est-ce qu'il prend son temps
Est-ce que les Français ont le temps d'attendre ? C'est ça, la réalité. Quand ils vont mettre de l'essence dans leur voiture et quand ils voient l'augmentation de l'essence, quand ils vont faire leurs courses et quand ils voient les prix augmenter, quand ils se promènent dans la rue et qu'ils doivent faire face à l'insécurité, est-ce que les Français ont le temps d'attendre ? Non, moi, je pense qu'il y a toujours urgence à gouverner un pays. Et je trouve que Emmanuel Macron ne prend pas la réalité de ce qui
Mais
se passe dans notre
comment
dans
interprétez-vous
notre pays.
Le temps qu'il se donne pour ce choix ?
Comment je l'interprète ? Je pense que d'abord il n'était pas véritablement prêt à trouver son Premier ministre parce que hésiter comme ça et prendre un mois pour désigner son Premier ministre, c'est que finalement il n'y avait pas réfléchi beaucoup. Et d'ailleurs je note qu'il y a eu deux femmes qui ont été approchées, qui ont refusé Matignon. Qui aurait été reçu par Alexis Kohler, donc ça veut dire que voilà, il les a reçus pour déminer, pour voir si c'était possible ou pas.
Regardez, celles qui sont pressenties, Nadine Morano, on va les voir.
De refus, c'est inédit quand même, déjà.
Bon, Audrey Azoulay, on a parlé d'elle, directrice générale de l'UNESCO. Plus sérieusement, Elisabeth Borne, ministre du Travail. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et puis, on voudrait vous faire réagir sur ce profil, Catherine Vautrin, vous connaissez très bien, ex-trésorière de l'UMP, proche de Nicolas Sarkozy, présidente du Grand Reims, qui a rejoint LREM en février dernier. Cette dernière tiendrait la corde. Est-ce que c'est un bon profil ?
Écoutez, moi, je connais Catherine Vautrin depuis longtemps. C'est une femme de qualité, incontestablement. Après, est-ce qu'elle est prête à renier toutes les idées qu'elle a défendues depuis si longtemps ?
C'est-à-dire, elle a rejoint quand même la majorité.
Elle a rejoint Emmanuel Macron, je crois, au mois de février. Donc, est-ce qu'elle est prête encore à faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire à appliquer une politique qui serait totalement contraire à ce qu'elle a défendu pendant des années ? C'est son problème, ça la regarde. Mais vous savez, moi, le choix du Premier ministre, à la limite, peu m'importe. C'est le problème du président de la République, c'est pas mon problème à moi. Moi, mon problème, c'est de faire en sorte que nous ayons un maximum de députés à l'Assemblée nationale qui portent les couleurs des Républicains, qui vont amener une autre politique à l'Assemblée nationale pour représenter les Français et qui permettront en fait d'avoir un contre-pouvoir à un président qui, vous le voyez, prend son temps comme s'il n'avait pas urgence.
Si c'est une femme de droite qui est
si c'est
à
une
Matignon,
femme de droite, est-elle encore vraiment de droite ? Parce qu'une femme de droite, elle
quand
est
on
pour
voit
l'ordre.
La réaction ce matin de la Macronie qui met en avant son opposition opposition au mariage pour tous, on voit bien qu'elle elle provoque, en tout cas, elle met sous tension la majorité.
Oui, elle était opposée au mariage pour tous, mais elle était pour le contrat d'union civile, comme nous tous à l'époque. Donc, non, moi, c'est sur les questions de sécurité, d'immigration, sur la gestion des deniers publics. Qui me poserait problème, même sur la défense de notre filière nucléaire. Enfin, nous avons toujours été dans la défense de notre filière nucléaire. Bon, est-ce que elle est prête à suivre un président qui, lequel président va-t-elle suivre d'ailleurs? Celui qui a annoncé qu'il avait fermé 14 réacteurs nucléaires, celui qui maintenant dit qu'il va rouvrir
Macron 2,
Macron 2, donc mandat nouveau pour peuple nouveau. Non, les Français sont toujours les mêmes, c'est toujours lui avec le même langage brouillon, c'est-à-dire le en même temps permanent, donc on sait jamais où on va et il nous fait perdre du temps. Surtout sur le coût de l'énergie. Mais franchement,
mais
c'est...
Mais Nadine Morano, dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a envoyé le signal très clairement. Il parle d'extrême-centre, c'est le concept qu'il utilise. Il y a de la place pour la droite bonapartiste, dit-il, peut-être pensait-il à vous, et pour la gauche écologiste dans sa coalition. Est-ce qu'on peut être encore à droite et rejoindre Emmanuel Macron sans se trahir?
Non, mais vous voyez, lui voudrait un espèce de grand parti unique, en fait, où tout le monde est à l'intérieur et où personne ne pense plus rien. Il y a plus d'idées fortes, il y a plus de lignes directrices, il y a plus de vision. Gouverner, c'est prévoir. C'est pas gouverner sur un court terme. Quand vous devez travailler sur une filière énergétique comme celle du nucléaire, quand il a dit face à Marine Le Pen qu'il avait été obligé de fermer Fessenheim parce que plus de travaux n'avaient été faits depuis 2012. Mais enfin, il est culotté quand même, il est gonflé. C'est quand même François Hollande et lui qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge des questions économiques, puis ministre de l'économie et des finances, qui ont été responsables de cette fermeture de Fessenheim. Il était déjà aux affaires. Ça fait 10 ans, Hollande, Macron et Macron 2, ça fera 15 ans que la France devra supporter cette espèce de zigzag en matière d'énergie et c'est les Français qui le payent sur leur facture.
Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de zigzag. Là, aujourd'hui, ils ont...
Ah bon, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de zigzag? Depuis quand? Depuis quel niveau de la pente il n'y a pas de zigzag?
Depuis cette campagne présidentielle.
Depuis un mois?
Le président a dit ce qu'il voulait faire sur la filière nucléaire, quand même.
Et qu'est-ce qu'il va faire sur la filière nucléaire?
Vous l'avez entendu parler de relance de la filière nucléaire.
Dites-moi, monsieur Barret, il va faire quoi? Il va relancer ce qu'il a fermé. Très bien, vous vous rendez compte? La perte de temps...
Il n'a pas dit qu'il relancerait ce qu'il avait fermé. Il n'a pas dit qu'il relancerait.
Non, mais quand vous n'investissez plus dans les réacteurs qui sont déjà encore opérationnels, que vous êtes obligé d'en fermer certains parce que des travaux sont nécessaires, vous affaiblissez... notre système
énergétique nucléaire. Vous avez dit gouverner,
nucléaire.
C'est prévoir. Et gouverner, c'est choisir. Et ça vaut pour la droite aussi, Nadine Morano. Vous dénoncez, tout à l'heure, nous recevrons Adrien Quatennens, vous nous direz ce que vous reprochez à la NUP. Mais quelles idées à droite pour les prochaines années? Il y a quelques semaines, nous avons reçu ici même Aurélien Pradier, on dit que c'est la jeune génération de LR, secrétaire général de ce mouvement, qui dit que la droite, maintenant, c'est social, c'est la lutte contre les inégalités. Fini les thèmes identitaires, il faut tourner la page Nicolas Sarkozy. C'est votre droite, celle-là aussi?
Je ne pense pas qu'il puisse résumer notre famille politique à cette part de son action. La droite a toujours été sociale. La droite a porté des grandes réformes.
Mais il dit explicitement qu'elle ne doit plus être identitaire. Il faut mettre ça de côté. Êtes-vous d'accord avec lui?
Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, ne plus être identitaire. Moi, je suis attachée à l'identité de la France. Je suis attachée à sa culture, je suis attachée à sa puissance, à son rayonnement, à sa sécurité. Je veux que nous mettions en place une vraie politique de contrôle de l'immigration. C'est indispensable pour la cohésion de notre pays. Je veux une politique d'ordre, de sécurité et de justice et d'accompagnement social. Moi, je suis contre l'assistanat, je suis pour la solidarité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas deux partis chez les Républicains aujourd'hui, même si votre part du gâteau électoral est réduite, même avec moins de 5%, il y a encore deux partis aux lignes contradictoires chez vous.
Je ne sais pas si c'est contradictoire ou si certains se mettent des limites à leur action. Moi, je ne me mets pas de limites à mon action. Je suis entrée au RPR, j'avais 20 ans, et je peux vous dire qu'il y avait toutes les classes sociales qui étaient représentées. C'était un grand parti populaire. J'ai fait campagne avec Jacques Chirac. J'étais fière de faire campagne avec lui. J'ai été honorée de participer au gouvernement de Nicolas Sarkozy qui ont mené des politiques et même d'ailleurs au niveau international, mais on y reviendra, qui étaient des politiques responsables, efficaces. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre en contradiction...
Vous ne citez pas Valérie Pécresse dans cette lignée, mais bon,
on ne peut pas mettre en contradiction les politiques sociales et les politiques de sécurité, de justice, d'immigration. Pour moi, gouverner un pays, c'est pouvoir appliquer des politiques sur tous les champs.
Est-ce que ça l'est clair pour tout le monde à droite? Ce sont finalement 5 députés LR sortants, Nadine Morano, qui vont briguer leur succession sous les couleurs de la majorité et pas, il faut bien le dire, une grande hémorragie comme certains l'ont voulu ou annoncé. Mais par exemple, face à Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, il n'y aura pas de candidat de la majorité. Damien Abad qui a été reçu à l'Élysée, c'est quand même le président du groupe LR à l'Assemblée. De quoi tout cela est-ce le signe?
C'est le signe qu'il faut toujours être clair face à ses électeurs. Je dis à Damien Abad, tes électeurs vont te choisir sur la base d'un programme, lequel est-il? Il faut être clair. S'il choisit de rejoindre Emmanuel Macron, qu'il le dise clairement. S'il choisit de rester parmi nous, qu'il le dise clairement aussi. Et s'il ne veut pas rester parmi nous, il faut un candidat en face de lui. Voilà, les choses sont claires. Nous voulons être une droite indépendante. Nous voulons être une droite qui portons un vrai projet.
Mais réduite à peau de chagrin aujourd'hui.
Non, parce que je considère que les plus de 100 députés qui ont fait un travail extraordinaire dans nos circonscriptions, tous ces élus et le Sénat d'ailleurs qui travaille, tous ces parlementaires qui travaillent ensemble parce qu'ils portent les mêmes convictions, les mêmes combats, je suis désolée. Quand vous avez peur de perdre votre siège de député et que vous renoncez à vos idées, faites autre chose que de la politique.
J'aime
la politique, elle doit rester noble. On doit pouvoir rester droit.
Il aura un candidat face à lui quand même. La menace est...
Il doit être clair. Il est reçu à l'Élysée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut devenir ministre. Et s'il veut devenir ministre, qu'il le dise directement à tous ceux qui vont aller voter le 12 et le 19 juin.
Clarté et indépendance.
On ne peut pas avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. C'est pas possible.
Ancienne ministre et députée européenne, évidemment, l'Europe est au cœur des débats. On va en parler avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis aussi le projet européen d'Emmanuel Macron. Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous à la fois sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire Les Échos. Première invitée, l'ancienne ministre et eurodéputée Nadine Morano. Je vous propose d'écouter cet extrait. C'était hier au concours de l'Eurovision. Et à la fin, c'est l'Ukraine qui gagne, sans suspense, prévisible. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, c'est une remise de prix plus politique et symbolique, sans doute que sur la qualité de la chanson.
Bien, sans plus. Elle ne vous emporte pas plus que cela. Restons sur le plan européen, puisqu'on a parlé de l'Eurovision. Comme Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron souhaite réviser les traités et abandonner la règle de l'unanimité des votes. Pour plus, disent-ils les deux encore d'efficacité. Vers quelle Europe allons-nous ?
Fédéraliste, très clairement.
Et en quoi ce serait grave ?
C'est grave parce que ça met en cause les États dans leur souveraineté. Et dans ce qui peut porter atteinte à leurs intérêts vitaux. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est pas mon Europe, en fait. Mais on sait très bien que Emmanuel Macron est totalement fédéraliste. C'est pas ma vision de l'Europe. Voilà. Et je trouve ça grave. Et je me battrai contre ça.
On sait très bien aussi que beaucoup de pays n'en veulent pas.
Il y a plus de 13 pays qui ont déjà signé.
Donc ça n'a aucune chance d'aboutir.
Non, aucune.
C'est plutôt une vision de très long terme, dirons-nous.
Oui, mais qui n'aura pas de chance d'aboutir parce que les pays n'en veulent pas. Enfin, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il fait des propositions sur les listes transnationales, sur ce vote à la majorité qualifiée qui pourrait porter atteinte à la souveraineté des États et à leurs intérêts vitaux, ça fait un flop. Excusez-moi, ça fait un flop. C'est comme quand il convoque la grande conférence sur l'avenir de l'Europe au sein même de l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où les parlementaires ne sont pas invités. Il y a des gens, je ne sais pas qui étaient ces gens à l'intérieur, qui étaient dans l'hémicycle, s'ils ont été tirés au sort, comme dans la conférence, pour la conférence sur le climat. Voilà, et il y a 0,01% des Européens qui ont participé en donnant des contributions, c'est-à-dire quasi personne.
Et en même temps, vous qui siégez au Parlement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des sujets sur lesquels ça devrait aller plus vite en Europe ? D'où la volonté de passer... De modifier les traités, justement, dans ce sens-là.
Si, il y a sans doute un mode de gouvernance qui devrait permettre d'accélérer certaines choses, mais lesquelles ? Parce que, par exemple, sur la question migratoire, moi, je travaille sur la refonte de la directive retour. Je peux vous dire que, autant le texte de la Commission est plutôt bon au départ, autant je vois des amendements qui passent, mais qui vont aller à l'encontre de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire vraiment protéger nos frontières, maîtriser notre immigration, parce que c'est ça qui va être vital pour les Européens aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que l'immigration est devenue insupportable pour les peuples, parce qu'elle n'est pas choisie, parce qu'elle est imposée et parce que vous avez beaucoup de personnes qui arrivent, qui ne partagent ni notre culture, ni notre mode de vie, qui viennent s'installer chez nous et imposer le leur. Donc c'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Nadine Morano, une Europe fédérale, ce serait une Europe affaiblie au moment où Poutine, évidemment, poursuit malheureusement sa guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a démenti toute concession alors que le président ukrainien Zelensky reproche à la France ses tentatives de dialogue. Il y a le fond, il y a la forme. Je voudrais vous faire réagir sur la forme qui rejoint souvent le fond. Emmanuel Macron a montré, en tout cas, une forme de mise en scène, disent certains, son dialogue.
J'ai regardé
dans une vidéo.
Vous savez, la diplomatie, pour qu'elle soit efficace, elle doit se faire à bas bruit. Elle ne se fait pas avec des caméras, des images. Quelle confiance vous pouvez avoir en un président de la République qui est un de vos interlocuteurs d'un autre pays, quand vous savez qu'il va être filmé ? Bon, on voit qu'il parle de Vladimir, Volodymyr...
Reconnaissons que dans la vidéo, on ne trahit aucun secret. Hein.
Non, mais on ne trahit aucun secret, mais moi, je me suis demandé, quand on a besoin de temps s'exposer, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à imposer sa vision. Parce que quel résultat a-t-il obtenu ? Il a beaucoup parlé avec Vladimir Poutine. Il a mis en scène ses entretiens très régulièrement. Il est allé à Moscou. Il est revenu bredouille. C'est comme quand il est allé au Liban. Il est allé au Liban, il y est resté plusieurs jours. Il a voulu donner des leçons à la classe politique libanaise. Regardez aujourd'hui l'état de Beyrouth et de la classe politique libanaise. En fait, c'est... Emmanuel Macron, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il a du talent. Il a beaucoup d'éloquence, il a beaucoup de prestance, mais il ne la met pas suffisamment au service de l'efficacité. Et moi, je préfère la méthode qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy à l'époque, quand il y avait eu la crise en Géorgie, qui était allé voir Medvedev et qui avait obtenu des résultats sur le cessez-le-feu.
Alors, vous avez probablement lu cette semaine, dans Le Figaro, la grande tribune d'Henri Guénaud, où il s'inquiète de voir l'Europe marcher vers la guerre, donc comme des somnambules vers la guerre.
Oui, j'ai lu cette tribune.
Une guerre globale, on s'entend.
Oui.
Est-ce que vous redoutez un tel scénario aussi, ou s'agit-il de paroles exagérées ?
Non, je le redoute. Je pense qu'aujourd'hui, alors que pendant 8 ans, il y a eu, comme vous le savez, des combats dans le Donbass, qui ne faisaient jamais la une des médias, des crises, une crise grave. Il y a eu d'ailleurs le sommet format Normandie qui avait été convoqué par François Hollande, qui avait été invité par François Hollande, qui est arrivé aux accords de Minsk, qui n'ont pas été évidemment appliqués, dont il n'y a pas eu une continuité aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un discours qui ne consiste qu'à être dans l'escalade et non pas la désescalade.
Pas celui du président français. Hein. Il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie.
Oui, mais quels actes ? Je veux dire, on entend que des candidatures pour entrer dans l'OTAN, des candidatures à entrer dans l'Union européenne, comme si on allait encercler la Russie. Et moi, je crois qu'il faudrait une grande conférence de la sécurité.
Avec qui ? Avec la Russie ?
Bien sûr,
avec la Russie. Mais qui va s'asseoir autour de la table, M. Poutine ?
Il faut discuter avec Vladimir Poutine.
Enfin, si on ne parle pas... avec des appels.
Non, mais
vous imaginez...
Vous imaginez...
Je veux dire, il faut avoir Poutine...
Non. Vous ne m'avez pas compris, là. Je n'ai pas dit ça. Je ne lui reproche pas de dialoguer avec Vladimir Poutine. Ce que je regrette, c'est la mise en scène qui fait qu'au final, on est dans la superficialité et on n'est pas dans l'obtention de résultats. Moi, ce que je veux, c'est des discussions qui soient fermes, qui puissent durer des heures, sans doute, avec plusieurs interlocuteurs, avec plusieurs membres de l'Union européenne, plusieurs chefs d'État, et qu'on arrive à aboutir à quelque chose. Cette guerre, elle est sur notre territoire, elle est sur le territoire européen. Et on en est aussi arrivé là parce que depuis des années aussi, regardez l'interview qu'avait donnée Vladimir Poutine en 2005 à Christian Mallard à l'époque. Il était proche quand même de venir vers l'Union européenne. Et j'aurais aimé ça. Moi, j'avais créé au Parlement européen un groupe pour un nouveau dialogue avec la Russie.
Il donnait l'impression qu'il allait être proche avant de préparer quelque chose à plus long terme.
Non, mais il faut réfléchir aussi avec la mentalité russe, comprendre de quelle manière est-ce qu'il pense son pays, comment
et
il souhaite le protéger.
L'adhésion de la Finlande, la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN, pour vous, c'est un risque de ce point de vue?
Je pense que, vu le contexte actuel, même si évidemment la Finlande a tout le droit de rentrer dans l'OTAN, de faire acte de candidature au moins, je crois que si on est dans ces seules propositions-là, je pense qu'on n'est pas dans un épisode de désescalade. Et je crois qu'on a besoin de désescalade.
Peut-être êtes-vous, paradoxalement, j'allais dire, sur la même ligne que ça va vous faire sursauter, que la France insoumise, que Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut être non aligné. Vous critiquez beaucoup cette union des gauches. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre aussi une partie de ce discours-là. Pas aligné, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas le cas?
Là, sur cette union des gauches, c'est d'abord le symbole du culte de la personnalité de M. Mélenchon. Pour moi, c'est cet accord, NUPES, c'est le label, en fait, anti-police. Je vous rappelle que M. Mélenchon, dans ses propositions, veut supprimer les BAC, hein, les brigades anti-criminalité, qu'il veut aussi supprimer toutes les armes intermédiaires pour les policiers.
La phrase exacte, c'est désarmer le plus possible.
Oui, le plus possible. Voilà, moi, ce que je veux, précis. C'est donner le plus possible de sécurité aux Français. Ce n'est pas enlever des moyens à nos policiers pour permettre de mettre en place des vraies actions de sécurité pour nos compatriotes. Ça, je trouve que c'est incroyable. Ensuite, il veut supprimer notre filière nucléaire à terme. Hein. Alors moi, je le dis, puis c'est aussi le label du communautarisme. Regardez le candidat qui maintenant
s'est retiré. Le diable, là, vous entendre, il y a tout.
Ah ben, moi, je veux dire, quand on est socialiste et quand on porte ce label, c'est pour moi le label de la honte. Vous savez, moi, je me rappelle en 2004... François Mitterrand et Helmut Kohl se sont donné la main à Verdun. Pour moi, c'était un symbole extraordinaire parce que c'était ce symbole de la réconciliation franco-allemande qui, pour nous, est extrêmement important. C'est un trésor pour nous. C'est aussi la construction de l'Union européenne. Quand j'entends M. Mélenchon dire qu'il faut désobéir au traité de l'Union européenne, pour moi, c'est insupportable. Mais je ne comprends pas comment des socialistes peuvent accepter ça.
Madame Morano, la gauche parvient néanmoins à s'unir. La droite, de son côté, est tout à fait désunie. Est-ce que pour s'opposer à une gauche unie, la droite ne devrait pas s'unir d'une manière ou de l'autre?
Mais pour s'unir, il faut s'unir sur un projet. Sur un programme. Mais ça les regarde. S'ils sont prêts à se renier à ce point-là, si pour les socialistes, c'est accepter ce que propose M. Piolle, c'est-à-dire le burkini à la piscine, c'est-à-dire le communautarisme, c'est proposer une candidature aux élections législatives à M. Tarbouaf, qui avait quand même traité Dalil Boubaker de collabeur à l'époque où les musulmans et Dalil Boubaker avaient manifesté contre les attentats terroristes en France. Nous, on n'a pas. Comment les socialistes peuvent accepter une telle vision communautariste?
Vos mots vont beaucoup faire réagir notre second invité, puisque c'est Adrien Quatennens qui va vous succéder. Merci Nadine Morano. Merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Et à très bientôt. Restez avec nous, une courte pause. Vous l'avez entendu, alliance de la honte pour Nadine Morano concernant la NUP ou NUPES, comme vous dites. Réaction d'Adrien Quatennens sur ce sujet et beaucoup d'autres. À tout de suite pour la suite du grand rendez-vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci à vous d'être avec nous pour la suite de ce grand rendez-vous. Deuxième invité, on l'accueille avec plaisir également, évidemment. Adrien Quatennens, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, cheville ouvrière également de la NUP, l'Union des Gauches, on va en parler. On parlera aussi de pouvoir d'achat, d'Europe avec vous, d'une semaine mouvementée aussi que vous avez connue au sein de cette grande alliance. Mais tout d'abord, Adrien Quatennens, un chef ne doit-il pas montrer l'exemple et descendre dans l'arène ou dans la mêlée. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas candidat aux législatives ?
Bah, d'abord, Jean-Luc Mélenchon, il est là au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Vous me permettez de le résumer. L'élection présidentielle n'a rien réglé. C'est-à-dire que le 10 avril, on a vu émerger trois blocs politiques. Le bloc ultralibéral Emmanuel Macron, le bloc d'extrême droite incarné par Madame Le Pen et ce bloc populaire que nous avons commencé à regrouper lors de l'élection présidentielle. Or, nos institutions sont calibrées pour l'opposition entre deux blocs. Sauf qu'il y en a trois. On pourrait même en ajouter un quatrième, les abstentionnistes. Donc le second tour et sa nature entre M. Macron et Mme Le Pen a rendu impossible les ruptures écologiques, sociales, démocratiques qu'il faut opérer. Donc au sortir de cette élection, vous avez des millions d'électeurs qui sont sur le carreau, qui voulaient l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la planification écologique, et qui se sont dit « c'est terminé ». Ce que permet le score de Jean-Luc Mélenchon, 22% l'élection présidentielle et plus de 7 millions de voix, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est grâce au score de Jean-Luc Mélenchon que nous avons pu continuer à regrouper ce bloc populaire. Et donc, pour résumer les choses, Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être candidat aux élections législatives pour concourir au poste de Premier ministre, puisque d'ailleurs, plusieurs Premiers ministres dans la Ve République n'ont jamais été députés. C'est le cas de celui qui est encore actuellement Premier ministre.
Tous les Premiers ministres de la cohabitation l'ont été.
Oui, mais je veux dire, ça n'est pas, ça n'est pas incompatible. Ça va aussi lui permettre, Jean-Luc Mélenchon, de s'impliquer sur toute la campagne et de se déplacer librement.
Ça, c'est la vraie raison.
Mais pour que ce soit très clair, parce qu'il y a des gens qui, du coup, comprennent pas bien les choses ou trouvent ça trop confus. Donc, je résume les choses. Les 12 et 19 juin, c'est l'élection qui va trancher le mandat politique pour les 5 prochaines années. Et il n'y a pas d'automaticité au fait que le président de la République élu obtienne une majorité. Il y a des élections législatives, c'est pas pour faire un cadeau au président
et
de la
logique,
République.
Une logique, normalement, Adrien Quatennens.
Les gens comprennent une peut-être logique. Pas toujours les choses, mais là, s'il n'y va pas, c'est peut-être aussi parce qu'il a peur de la défaite à Marseille.
Vous pensez franchement qu'avec le résultat qu'il a obtenu dans sa circonscription, parce que enfin, Jean-Luc Mélenchon a fait 54% dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Non, par contre, il passe la main sur ce territoire, sur cette circonscription, à mon camarade Manuel Bompard, parce que, disons-le aussi, Jean-Luc Mélenchon est de ses responsables politiques qui ont pris soin de prévoir la suite et d'avoir notamment une nouvelle génération et plusieurs visages de cette nouvelle génération très capables de faire le travail à l'Assemblée. Juste permettez-moi, Mathieu Bocoté, donc de résumer. Les 12 et 19 juin, l'élection législative, du fait de ce que je viens de dire, va, quoi qu'on en pense et quoi qu'en pense le président de la République, fonctionner comme un troisième tour de l'élection présidentielle, parce que dans la constitution de la Ve République, le Premier ministre conduit et détermine la politique du gouvernement. Donc je résume, les 12 et 19 juin.
Mais
oui, mais alors, bien sûr, vous avez raison, Samabrook, mais sauf que les 12 et 19 juin, si les Français élisent une majorité de députés de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, alors le Premier ministre sera issu de cette formation.
Vous, si Emmanuel Macron pense à vous. Nous non, mais je ne suis pas dans l'ironie. Mais
bien sûr, mais nous sommes en accord, nous sommes en accord au sein des différentes formations qui se sont associées dans le cadre de la nouvelle Union populaire pour que ce soit Jean-Luc Mélenchon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un dernier tour de piste pour Jean-Luc Mélenchon ?
Non,
il ne
si
se présente pas une dernière fois. Si ça fonctionne, tant mieux, sinon
mais
au revoir.
Le problème n'est pas tant de savoir Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Quand on dit Élysée, Mélenchon, Premier ministre. Évidemment, il y a un certain plaisir pour nous à voir Jean-Luc Mélenchon s'installer à Matignon, mais tout le monde comprend que ce n'est pas ça le sujet.
Un peu quand même.
À travers Mélenchon à Matignon, c'est le blocage des prix.
Voilà.
Parce que votre invité précédente n'en a pas parlé, mais si vous voulez, aujourd'hui, qu'a-t-on sous les yeux ? Une France dans laquelle, en un an, le prix des pâtes a augmenté de 44%. J'ai noté la semoule, les céréales, plus 32%. L'huile, plus 25%. La farine, plus 18%. Le prix du carburant, qui est encore à 2 euros, souvent au moins, à la pompe. Bref. Monsieur Macron n'a pas l'air de s'en soucier, mais les Français sont pris à la gorge. Et donc, il faut les soulager rapidement. Et à toutes celles et ceux qui attendaient de l'élection présidentielle ces solutions et qui ont pensé que c'était terminé, ce que nous sommes en train de faire, c'est envoyer un signal puissant à travers tout le pays qui consiste à dire « Mesdames et messieurs, non, ce n'est pas terminé. Si vous avez voulu tout ça, vous pouvez encore l'obtenir grâce aux élections législatives. » De la même manière, quand vous voyez que la France est en état de sécheresse dans 6 départements, la planification écologique ne peut plus attendre.
Ça veut dire que le projet de la NUP, de cette union de gauche, c'est le projet exactement que vous avez porté à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, d'une gauche radicale et d'une extrême gauche, comme disent certains.
Ça veut dire en tout cas que dans la discussion avec nos partenaires, nous n'avons pas souhaité simplement un accord électoral. L'accord électoral est une conséquence d'un accord programmatique et stratégique. Et oui, compte tenu du fait que l'élection présidentielle a deux reprises, Sénat Mabrouk, parce que quand c'est arrivé en 2017 qu'une gauche de rupture incarné par Jean-Luc Mélenchon soit en tête, certains pouvaient se dire « c'est un accident de l'histoire ». Ce n'était pas le cas, mais quand ça arrive par deux fois, on voit que le centre de gravité de ce camp-là, de ce bloc populaire, il est dans une gauche de rupture. Donc le programme qui est un programme
de rupture, partagé... Pas extrême-gauche, Adrien Quatennens.
Bah non, pour la raison très simple que nous ne sommes pas l'extrême-gauche.
Bah, c'est ce que dit l'extrême-droite, qu'elle n'est pas l'extrême-droite.
Bah, écoutez, l'extrême-droite, elle est l'extrême-droite parce qu'on n'a pas d'autre. Une extrême-gauche dans ce pays,
c'est
et d'ailleurs...
Léger, je
veux dire, non mais ils sont respectables, je veux dire, il y a des gens d'extrême-gauche dans ce pays. D'ailleurs, certains soutiennent la nouvelle Union populaire. C'est par exemple le nouveau parti anticapitaliste, Lutte ouvrière, et ça n'est pas une insulte. C'est une caractérisation politique. Mais nous ne sommes pas l'extrême-gauche. Et quand vous regardez un programme comme celui qui est un programme partagé de gouvernement que nous présentons, où il y a la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, la planification écologique, c'est oui un programme de rupture. Mais d'une certaine façon, si vous reprenez les grandes heures de la gauche dans ce pays, eh bien, mais c'est un programme de rupture qui est à ce niveau-là.
Permettez-moi de revenir sur les termes utilisés. Le Point, cette semaine, présente une sévère, un endroit.
Alors, instant. C'est génial.
Mais
moi,
instant, Manuel Bompard qualifie le Point, le compare à Minute. L'utilisation, vous avez qualifié, Jean-Luc Mélenchon associe ensuite Le Monde à l'extrême droite. Alors, vous avez parlé d'extrême droite. Pour vous, il suffit de vous critiquer en ce moment pour être d'extrême droite.
Non, mais c'est regardez, enfin, permettez-moi, parce que moi, là, j'ai acheté le Point, en plus, vous le diffusez.
On le voit.
Mais ceux qui nous écoutent ne l'entendront pas. C'est le meilleur des sondages, ça. Le déchaînement de haine de la presse de droite.
Est-ce que le Point est d'extrême droite,
Bah, écoutez, quand vous avez le Point, alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est drôle quand même, qui met la vérité sur M. Mélenchon, l'autre Le Pen, et qui écrit « Europhobie, nationalisme, charlatanisme ». Je crois qu'ils ont oublié, je leur suggère, « satanisme, mangeur d'enfants, que sais-je ».
Non, attendez,
non, je vais vous dire autre chose.
Non,
tout ça, vous pouvez prendre vos airs sérieux.
Cette presse-là,
écoutez-moi,
fait un tweet
cette presse-là,
en qualifiant
elle fait,
le Point de tract d'extrême droite.
Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Vous avez lu le contenu? Moi, je l'ai lu. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose.
Vous, l'extrême droite commence au Point.
Non, écoutez-moi, en fait, je m'en fiche. Ce que je suis en train de vous dire, simplement...
Vous qualifiez la presse, le Point, le Monde de tract.
Mais ça, c'est pas de la presse. Franchement, lisez.
Mais qui
moi, je vais vous dire un truc.
Le Point, c'est
pas.
Pas non,
attendez, Nicolas
le
Barret.
Monde, c'est
Nicolas
pas de la presse.
Barret. C'est
le, pas, journaux que vous avez
Nicolas
là, c'est
Barret.
Pas de la presse.
C'est pas tous les jours que je vais le faire, mais volontairement, je vais faire de la publicité. Achetez ces deux journaux, vous allez bien vous marrer, parce que c'est délicieux de caricature. Et je vais vous dire franchement, la trouille que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale inspire à ce genre de journaux. Et à la droite et à l'extrême droite
mais
dans notre pays.
Vous avez quand même une drôle de Nicolas conception
Barret.
De la liberté de la non, presse.
Mais ils sont tous
accusés le Monde, le Point et Valeurs Actuelles de tract.
Est-ce que je suis contre leur liberté? Je suis en train même d'en faire la publicité mais tellement c'est drôle. Moi, ces deux-là, je vous le dis, pardon. Je vais les encadrer.
Cadrons
tellement
le
c'est
débat.
Plein de caricatures.
Monsieur Quatennens, la question.
C'est le meilleur des sondages.
Écoutez-moi,
vous savez,
si Jean-Luc Mélenchon arrive, disons,
non, mais attendez,
par Mabrouk,
juste d'un mot,
Matignon,
d'un mot.
Quelle sera vos
c'est la première
la
fois,
presse,
mais,
si...
mais elles seront très bonnes, il n'y a pas de problème.
Écoutez, vu comment vous les qualifiez, on peut en douter.
Mais c'est rigolo, j'ai le droit d'en rire. Eux, ils nous caricaturent, incontestablement.
Pas pour les journalistes du Point, pas pour les journalistes du Monde.
C'est de bonne guerre. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la première fois que nous abordons, et c'est neuf pour nous, une élection dans la position de favori. Alors je sais qu'il y en a peut-être comme fou que ça ne réjouit pas, mais c'est la première
mais
fois.
Pourquoi vous nous mettez dans cette catégorie, monsieur Quatennens?
Mais je ne sais pas, parce que la manière dont vous
ne
supportez pas...
Bah,
non mais écoutez,
c'est vous
questions...
qui ne supportez pas la critique de
mais
la presse.
Je les supporte tellement que je viens en faire la publicité sur votre plateau avec les deux unes. Bah, pour m'en moquer, parce que c'est mon droit. Enfin, regardez, franchement, cette une, elle est drôle, tellement elle est pleine de caricatures. D'ailleurs, la une du Point, le photographe, pour reprendre, puisque vous voulez absolument qu'on soit... très sérieux. Le photographe qui a fait le portrait de Jean-Luc Mélenchon s'est désolidarisé de la rédaction en disant « J'ai fait ce portrait
Adrien
de Jean-Luc
Quatennens.
Mélenchon
ce qui
et quand
inquiète,
je vois les absurdités qu'il y a à côté... »
Il suffit de ne pas être d'accord avec vous pour être considéré d'extrême
non,
droite. Il
non,
suffit de ne pas
non,
être d'accord avec vous pour être
non,
mis dans
vrai,
un... Vous venez de nous dire, c'est vous
ne,
aussi,
non,
ça vous
Non, il y a
réjouit.
Des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui sont, ou avec nous, qui ne sont pas d'extrême droite. Donc, extrême droite, c'est un qualificatif. Je ne suis même pas en train de vous dire que le Point est d'extrême droite, juste qu'ils sont ridicules, le caricature,
pas
c'est
vous,
tout.
Mais
c'est
pas
grave.
Ça
s'est chargé.
Non, mais écoutez,
Mélenchon, c'est Jean-Luc
Mélenchon. Franchement, que chacun lise et chacun se fera un avis. Maintenant, encore une
ça
fois,
restera plus que
je crois que ça
ne
passionne
peut-être.
Pas celles et ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin que la vie change et qui s'intéressent
alors,
assez peu à notre appréciation respective de la presse. Par
Attends.
Contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que nous abordons une élection comme favori. Que la dernière fois en 2017, ce n'est
pas
Mabrouk,
plutôt Marine Le Pen qui est en tête.
Ah, pas du tout. Dans les sondages.
Après la présidentielle, c'est quand même elle qui.
Alors, pardon de vous perturber, Monsieur Barret, mais dans toutes les enquêtes d'opinion et les sondages pour les élections législatives des 12 et 19 juin, dont nous venons ensemble de résumer les enjeux, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ne vous en déplaise éventuellement, qui est en tête de tous les sondages. Et j'insiste sur le fait que la dernière fois en 2017, Emmanuel Macron a eu une majorité absolue avec 32% au premier tour et que certains de ses sondages nous donnent à 34%. Donc je dis à toutes celles et ceux qui attendent que la vie change, si vous renouvelez vos votes du mois d'avril au mois de juin, nous arrivons au gouvernement.
Sur le fond, c'est important. Le point fait cette comparaison parce qu'il y a aussi des... cette comparaison avec Marine Le Pen, il y a des points de convergence quand même sur le pouvoir d'achat. Vous avez la même logique sur le pouvoir d'achat. Elle
Pardon
a des propositions.
Mais en elle quoi a des propositions
ce... Oui, Marine Le Pen.
Lesquelles
a... Écoutez, bah,
allez-y,
sur
vous
les
écoute.
Prix. Non, mais vous avez suivi la présidentielle, je
ne
vais pas refaire
bien
le débat.
Mais je vais vous répondre, mais dites-moi lesquelles.
Elle n'a pas des propositions sur le pouvoir d'achat.
Bien,
elle a été perçue en partie, et je dis à travers les sondages,
ah, là, vous
la
avez raison.
Du pouvoir
elle
d'achat.
Est... Là, vous avez raison, Sandoc. Elle est perçue en partie.
Ah oui.
Et il est vrai que dans ce pays, pour une raison qui m'échappe totalement, il y a des gens qui se figurent que Mme Le Pen va solutionner leurs problèmes du quotidien comme le pouvoir d'achat. Or, dans son programme, je vous le dis et je vais vous l'expliquer et l'argumenter. J'allais le
vous
faire.
Vous allez me dire que je suis le
tract. Si vous voulez présenter le tract de Mme Le Pen, faites-le, mais je peux le faire à votre place.
Posez la question, ne soyez pas de mauvaise foi, monsieur.
Supportez Katnins. Donc la réponse.
Mais supportez
Mme Le Pen, par exemple, sur les prix. Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce qu'on parlait des prix. Que propose-t-elle? Mme Le Pen, elle propose la baisse de la TVA. C'est-à-dire, elle propose en quelque sorte que ce soit l'État. Sur l'État que repose la charge de soulager l'usager, le bénéficiaire, le client. D'accord ? Mais dans le même temps, ce que Mme Le Pen ne dit jamais, et que vous avez peut-être vu, c'est que pendant que les Français sont serrés à la gorge, que les prix augmentent, vous avez peut-être vu cette semaine aussi que le CAC 40 vient d'annoncer 80 milliards de dividendes aux actionnaires pour l'année 2021, soit, Sonia Mabrouk, une augmentation de 84%, d'accord ? Madame Le Pen n'a rien à en dire. C'est-à-dire qu'à la différence de nous qui proposons le blocage des prix, ça veut dire la course au profit et les dividendes vers les actionnaires quand la masse du peuple souffre,
c'est terminé. J'ai dit qu'il y avait des nuances de proximité.
C'est plus que des nuances. Bien. Madame Le Pen est l'autre candidate, elle ne l'est plus, mais elle était l'autre candidate des riches dans cette élection. Madame Le Pen vient sur vos plateaux. Elle est contre l'augmentation des salaires. Madame Le Pen est contre l'augmentation du SMIC. Madame Le Pen est contre
vous,
le dégel du point d'indice.
Macron, pour le poids,
j'avais
vous êtes
eu l'occasion,
l'autre Le Pen. Personne n'est personne.
J'avais eu l'occasion de dire, Mathieu Bock-Côté, lors de la campagne présidentielle, que Marine Le Pen, c'était en quelque sorte du macronisme repeint en bleu marine. C'est-à-dire, grosso modo, économiquement, d'ailleurs, on l'a vu dans leur débat télé, sur le pouvoir d'achat, ils étaient assez convergents. Moins, effectivement, les obsessions identitaires de Mme Le Pen. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec ça. Et je veux le dire à toutes celles et ceux que Jean-Luc Mélenchon a souvent appelé les fâchés pas fachos. C'est-à-dire des gens qui ne partagent pas la vision identitaire ou ethniciste de Mme Le Pen, mais qui, pour plein de raisons, pensent qu'elle va solutionner leurs problèmes de pouvoir d'achat. Cette femme ne va rien solutionner. La dernière fois qu'il y a eu un débat important sur les retraites à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas vu dans les débats. Donc, voter pour Mme Le Pen, ça ne sert à rien. D'ailleurs, regardez, dans cette élection législative, quelle est l'ambition de Mme Le Pen? Vous l'avez entendu? Mme Le Pen elle-même, presque, appelle à voter pour les candidats
mais
d'Emmanuel
les
Macron. Elle a dit l'autre soir sur TF1, eh bien oui, c'est la tradition, le président doit avoir une majorité. Mais non, Mme Le Pen, concourir au poste de Premier ministre, c'est nécessaire. Les gens ne vont pas sortir d'enthousiasme pour aller voter. Simplement pour vous offrir un groupe à l'Assemblée. Par contre, pour mettre Mélenchon et Matignon à appliquer ce programme, ils vont le faire.
Eh bien, une pause, comme ça vous permettra de reprendre votre souffle et nous également, et de continuer d'évoquer d'autres sujets, évidemment pouvoir d'achat, mais aussi une semaine mouvementée pour l'Union des Gauches. Et on se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité, le coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, candidat aux législatives, cheville ouvrière justement de l'Union des Gauches appelée la NUP. À ce sujet, Adrien Quatennens, il y a une semaine mouvementée après les révélations d'accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Taha Bouaf, proche de la France Insoumise, qui devait être investi aux législatives. Un comité de suivi de votre parti s'est chargé de suivre cette affaire. Et on s'interroge, est-ce que chez les Insoumis, la justice se fait entre soi?
Ça n'est pas la justice, Sonia Mabrouk. D'abord, c'est très sérieux, puisque en effet, nous avions l'intention et nous défendions la candidature de Taha Bouaf pour ces élections législatives. Mais le 7 mai, donc samedi, nous avons le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles, qui est une instance de la France Insoumise en partenariat avec des associations qui nous permet de traiter ce genre de cas, a été saisi d'accusations contre lui. Ça s'est passé le samedi 7 mai et nous avons appris que deux jours plus tard, le 9 mai, il a été confronté aux accusations contre lui. On lui a fait savoir que la France Insoumise se réservait le droit de ne pas l'investir et de lui-même, il a fait le choix de renoncer. Donc, tout de même, les choses ont été traitées en 5 jours. Ça n'est pas de la justice, c'est de la politique. Parce que nous avons des décisions politiques à prendre, Sonia Mabrouk.
C'est pas la justice de s'occuper de tel cas,
notre,
c'est de la politique.
Notre tâche à nous, c'est d'accompagner les femmes qui prennent la parole et, si elles le souhaitent, de les accompagner pour des démarches judiciaires.
Pourquoi vous ne les encouragez pas, Adrien Quatennens ? C'est, j'allais dire, c'est l'essence même du combat.
À aller en justice.
Oui. Mais bien sûr.
Mais nous les encourageons, nous les accompagnons.
Vous dites que l'affaire est réglée en 5 jours.
Elle est réglée politiquement. C'est-à-dire que Tahabouaf n'est plus candidat pour les élections législatives. Et d'ailleurs, Sonia Mabrouk, juste d'un mot, nous ne nous substituons pas à la justice. La justice doit faire son travail. Nous devons protéger la parole de ces femmes et les accompagner si c'est nécessaire. Et je veux saluer le travail, difficile travail, Sonia Mabrouk, qui a été réalisé par ce comité de suivi, et notamment par Clémentine Autain, parce que c'est un travail difficile.
Donc, on est vraiment
un
peu étonné.
Oui.
Non.
Et d'ailleurs, on a entendu chez certains de des partisans de la France Insoumise qui disent « La justice, globalement, peut-on encore lui faire confiance ? Donc on prend le problème en charge par nous-mêmes. »
Non, vous ne comprenez pas.
Qu'est-ce qui m'échappe ?
Ce qui vous échappe, c'est simplement que nous faisons de la politique. Donc nous investissons des candidats à des élections. Et qu'évidemment, nous devons être vigilants sur qui nous investissons.
Les autres partis font aussi de la politique comme vous.
J'y viens aux autres partis, vous allez voir que c'est intéressant d'ailleurs. Non mais il y a deux choses en fait. En fait, vous voulez rassembler deux choses qui sont distinctes. La justice, si ces femmes décident de saisir la justice, doit faire son travail. Ça appartient à la justice et ça appartient à ces femmes. En attendant, quand il y a d'éventuelles responsabilités politiques qui sont confiées à des personnes et que des femmes viennent saisir le parti politique ou la formation politique pour dire il y a un problème, bien on étudie le cas et supporter qu'au moment où on parle d'investiture pour les élections législatives, uniquement politiquement, ce n'est pas de la justice, c'est de la politique.
Le mouvement, je
le crois, mais ça doit être leur liberté totale. C'est-à-dire que c'est un choix. Et nous, notre travail, en tout cas le travail de cette cellule, c'est de les accompagner et de les respecter, d'ailleurs, Nicolas Barré, d'ailleurs, dans la discrétion qui est parfois requise. Vous savez que nous avons communiqué sur le sujet parce que la presse a sorti des informations, mais ces femmes, au départ, ne souhaitaient pas que ces informations sortent dans la presse.
C'est à elles, j'allais dire, franchement, qu'une organisation politique se saisisse donc de plaintes, éventuellement, qui peuvent aboutir, c'est assez sidérant.
Non, mais encore une fois, peut-être ne fais-je pas assez preuve de pédagogie, mais vous êtes dans une confusion. Ces femmes, si elles souhaitent donner suite judiciaire, iront porter plainte.
Mais Clémentine Autain, elle-même dit la justice est défaillante. Vous voyez bien qu'elle entretient une espèce d'ambiguïté
là-dessus.
Nicolas Barré,
excusez-moi, je voudrais répondre à la question de Sonia Mabrouk, si vous me le permettez. Ces femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient pas voir Tahabouaf investi et éventuellement devenir député. D'accord ? Et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, Sonia Mabrouk. Et ça a été traité en 5 jours, de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des associations ont salué la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations qu'elles donnent, eh bien, notre tâche sera de les orienter et de les accompagner.
Mais vous dites que ça a été exemplaire.
En revanche, oui, ce que je veux vous dire, c'est
que vous avez menti, que vous le saviez, en fait, que Clémentine Autain a laissé échapper le fait que la France Insoumise savait, pour les soupçons d'agression sexuelle depuis plusieurs jours, que vous auriez continué, pas vous personnellement, mais d'agiter le chiffon du racisme et de la meute politico-médiatique, alors que vous saviez que Tahabouaf, et je dis soupçonné, qu'il y a droit à la présomption d'innocence.
Vous avez raison de le rappeler. C'est parce qu'il y a la présomption d'innocence que ce que nous faisons précisément, c'est de la politique et pas de la justice.
Mais est-ce que vous saviez, M. Quatennens, bien avant, quand vous étiez en train de dénoncer le racisme supposé ?
Je vais vous dire une chose. Forcément, il y a eu une concordance des temps un peu étrange. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, Tahabouaf, parce qu'il est un militant des cités populaires, parce que sa parole n'est pas calibrée, etc., beaucoup, lui, ont sauté dessus. Il a eu une vraie cabale d'extrême droite contre lui. Pardon, pas qu'il y ait de confusion. Mais
quand
c'était avant.
Du Charlie Hebdo,
mais
par
c'était.
Exemple.
Mais c'était. Attendez.
Ou traiter une femme d'arabe de service.
Attendez. Il n'est plus candidat, donc ne vous acharnez pas.
Non, vous l'avez défendu à ce moment-là.
Sinon, je réponds pas à vos questions. Vous me posez des questions, laissez-moi vous y répondre. Donc, à ce moment-là, nous défendons sa candidature parce que c'est nous qui choisissons nos candidats et pour des raisons politiques et nous les défendons. En revanche, dès lors qu'il y a eu cette saisine du comité de suivi, eh bien, le comité s'est mis en place, a fait ce que je viens de résumer, et ensuite une décision a été prise. Mais je veux vous dire, Sonia Mabrouk, et insister là-dessus, c'est que, y compris si Clémentine Autain a eu une forme de discrétion sur la nature des accusations qui étaient portées contre Tahabouaf, c'est parce que, d'abord et avant tout, ce qui doit primer dans ce genre de cas, c'est la parole et la volonté de ces femmes, qui ne souhaitaient pas participer aux mises en cause dont Tahabouaf faisait l'objet.
Voilà. Bon, Monsieur Quatennens, il y va, c'est important comme question.
Je pense que les choses ont été résumées. sauf si vous voulez assumer l'idée que dans une émission d'une demi-heure, vous consacriez la moitié à cette situation.
Nous avons
par contre, moi, j'ai une chose à vous dire, si vous le supportez. C'est que si toutes les formations politiques, Sonia Mabrouk, agissaient par rapport aux violences sexistes et sexuelles avec autant de réactivité et d'organisation.
Pays, Katnins, et on doit être fier de cette justice et l'encourager à écouter ces femmes et ces femmes à porter plainte.
Sonia Mabrouk, en fait, vous refusez de m'entendre sur le fait que vous faites une confusion. Je vous le redis, nous ne confondons pas la justice qui doit pouvoir faire son travail et la politique. Les investitures aux élections législatives, ça n'est pas la justice d'en décider, vous êtes d'accord ? Les investitures aux élections législatives, c'est aux partis politiques d'en décider. Et c'est dans ce cadre-là, d'investiture ou non à des élections, que nous avons pris une décision politique.
Alors je vous
c'est
pose entendu une question plus clairement.
Est-ce en revanche, après, il y a la question...
Quelqu'un comme vous qui est attaché à ce combat, comme on l'est tous pour ces femmes, est-ce que publiquement, officiellement, en respectant leur choix, vous les encouragez à porter plainte ?
Bien sûr, bien sûr, je les encourage, mais c'est leur liberté et leur choix passe pour moi au-dessus de tout. En revanche, permettez-moi de dire ce que j'avais l'intention de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette affaire et on a beaucoup parlé de Taha Bouaf, mais vous devriez, si vous le voulez bien, passer un peu de temps et je vous propose 30 secondes de loop sur les investitures qui sont réalisées du côté de chez M. Macron. Parce que, par exemple, dans la même circonscription que celle où Taha Bouaf a du coup renoncé, vous avez dans la 14e circonscription du Rhône, M. Yves Blin, qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Je n'ai pas vu qu'on s'en saisisse autant. Je continue si vous le supportez aussi. Vous avez en Dordogne, investi par M. Macron, M. Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale. Et je pourrais parler de M. Benoît Simian, qui lui n'a pas été réinvesti, mais qui faisait l'objet
qui était poursuivi pour harcèlement. Condamné, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas... C'est tout à fait évidemment condamnable, mais ça ne veut pas dire
qu'il ne peut
pas
être candidat. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas avoir fait correctement les choses. Voilà. Et si tous les partis politiques se saisissaient de la question des violences faites aux femmes de la même manière, avec un même niveau d'organisation, alors on s'en tirerait tous bien mieux, je le crois.
Une dernière question, Mathieu Bocquet.
La question du burkini est de retour dans l'actualité aujourd'hui.
Les grandes questions. Vous voyez,
Mathieu
Bocquet.
Éric Piolle, c'est
vous
pas
savez,
Mathieu Bocquet qui a
cette question. J'ai envie de me moquer un peu de vous, moqué du point et de valeurs actuelles.
Vous parlez d'Éric
Piolle. Parce que, vous voyez, on a 30 minutes d'émission. Les gens nous disent, alors, la retraite, c'est 65 ans ou 60 ans. Alors, le pouvoir d'achat, et Mathieu Bocquet arrive avec les gros sabots et le burkini, franchement.
Éric Piolle, il vous soutient, je ne suis pas maire de Grenoble, il l'est, et il considère que le burkini est un progrès social. Il est dans votre majorité, il est dans votre coalition, pardonnez-moi,
certain que ce soit un progrès social,
Monsieur Piolle,
d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il nous appartienne à nous autres, les politiques, de décider d'éléments qui, à mon avis, sont de l'ordre du règlement intérieur des piscines municipales. Parce que, pardon de vous dire,
c'est une question de règlement intérieur de piscine municipale de burkini.
Évidemment.
C'est pas un symbole islamiste.
Peut-être qu'en effet, c'est un symbole communautaire.
Peut-être,
mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, souvent, il y a de la confusion. La question de quels vêtements nous portons à la piscine comme usagers d'un service public, d'accord, n'est pas une question de laïcité, M. Bocquet. Vous en êtes d'accord ou pas ?
Non, la question de l'islamisme est de laïcité.
Non, mais évidemment. Sauf que, M. Bocquet, prenons un exemple précis. Si vous êtes, vous, agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires, c'est normal, c'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir, rien avec la laïcité. En revanche, c'est vrai, je déplore qu'il y ait tant de salive et d'encre consacrée dans le débat politique à quelque chose qui est pour moi, en effet, du ressort d'un règlement intérieur et des questions d'hygiène, notamment dans une piscine municipale.
Nous avons eu l'occasion de balayer différents sujets. Merci en tous les cas d'avoir été notre
invité.
Grand rendez-vous. Merci à mes camarades Mathieu Bocquet et Nicolas Boiret. Très bon dimanche à vous sur nos antennes communes. Europe 1.